I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
La grande séance, l'interview.
On va parler, Morgane, de votre parcours, parce que c'est passionnant. Vous avez fait des études de biologie.
Exactement.
Après, vous êtes dit, bon, disséquer, ça va comme ça. Vous avez fait de la com.
Exactement.
Et quand dans le cadre de ces études de communication, quand vous avez dû faire un petit film, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est ça ?
Oui, exactement. Oui. Jusqu'à l'âge de 21, 22 ans, j'allais jamais au cinéma. Ça m'intéressait pas du tout. Mes parents viennent pas du tout de ce milieu-là. J'ai pas forcément les moyens même d'aller au cinéma. J'ai fait un parcours scientifique. J'étais à l'université et j'ai bien vu que j'allais pas faire ça toute ma vie. Et c'est en entrant dans ce cursus de communication qu'un professeur, Pierre-Pascal Furt, pour ne pas le nommer, nous a demandé de faire des films. Et c'était pas forcément dans le cursus, mais c'est quelque chose en quel il croyait vraiment, qu'on pouvait exprimer des choses personnelles ou donner son avis sur la société. C'était des films de 3 minutes et je ne savais absolument pas tenir une caméra. On n'avait pas de caméra, on n'avait aucun matériel. C'était à nous de nous débrouiller de faire un film et le rendre tel jour à telle heure. Et j'en ai fait plusieurs comme ça. Ce professeur assez, il m'a soutenu. La classe, il y avait un écho. Donc finalement, et ce que je racontais, on arrivait à le comprendre finalement. Et je prenais surtout un plaisir à exprimer des choses que j'avais peut-être pas forcément exprimées
dans votre vie
avant. Voilà, je suis pas forcément celui qui va parler le plus. Et je pense que voilà, faire des films, ça m'a ouvert. Et finalement, c'est cette quête-là qui m'intéresse aussi de pouvoir dire ce que je pense.
Et après, la FEMIS ?
Et après, voilà, j'ai voulu continuer à faire des films et je me suis dit quelle école était gratuite de cinéma. Il y avait la FEMIS, le concours.
Vous êtes entré facilement ? Comment ça s'est passé ? C'est intéressant de le savoir.
Après ce cursus de communication, j'ai pris une année pour voir des films parce que j'avais vraiment aucune culture, je savais rien du tout, hein, vraiment. Pour voir des films, pour faire des stages à la télé, en audiovisuel, et préparer le concours parce que c'était 6 mois après. J'ai simplement fait ça. J'ai passé le concours en scénario. L'analyse de films, c'est la première analyse de films que je faisais de ma vie. Et au final, je suis entré. Je ne sais par quel miracle. Et c'est vraiment à partir de là que...
Vous êtes entré plutôt côté scénario, c'est ça ?
Voilà, je suis entré vraiment pour écrire. Au départ, je ne voulais pas forcément réaliser. C'était quelque chose qui était, on va dire... complexe, puisque je faisais tout seul. Quand j'ai fait les films à l'école, je faisais tout seul, montage, réalisation, enfin vraiment j'étais tout seul et je voulais me concentrer sur les idées. Et c'est en faisant des films à l'école que j'ai rencontré Nathan Wilcox, que j'ai compris aussi comment fonctionnait le cinéma français, que finalement il fallait écrire son film pour le faire et que les films que j'allais écrire n'allaient jamais être réalisés
par quelqu'un d'autre.
Et du coup il y a eu en même temps ce plaisir de la direction d'acteur qui était vraiment avec Nathan. Et le plaisir de mettre en scène, de créer des images
avec vous avez du matériel. Fait des courts-métrages là.
Voilà, à la FEMIS j'ai fait des courts-métrages produits ensuite, plusieurs, et ce qui a amené à la sortie de l'école à faire Comptes et Blessures.
Ouais. Et ça a été difficile de faire un long ?
Ce qui est difficile...
On parlait de comédie tout à l'heure, c'est un projet rude pour un producteur, non ?
Pas forcément, parce que je pense que l'arène du film, cette musique, elle n'a jamais été traitée. Que la façon de le traiter était une façon qui était très vive et assez jeune. Et je pense que voilà, les producteurs Kazakh Productions, ils ont été emballés. Ils ont vu aussi les courts-métrages. Il y avait une façon d'aborder le travail avec les acteurs, la mise en scène, qui était peut-être un peu différente de ce qu'on voyait déjà dans le milieu du court-métrage. Et ce qui a été le plus dur, c'est vraiment d'écrire. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile, c'est de se sortir de ce qu'on a en soi. Ça a pris 2 ans. Et finalement, le financement, comme le film est passé par divers ateliers, Il s'est fait assez vite, en fait, en 6 mois, moins
et
de 6 mois.
Le film n'est pas très cher.
C'est le budget classique pour un premier long.
Autour de.
C'est 1,8 million.
Comme le coût moyen d'un film français, c'est 5 millions d'euros. Mmh. Donc,
pour un premier long métrage, ouais. Entre 1,5 et 2 millions, c'est le budget habituel, entre guillemets, aujourd'hui.
Alors, on a parlé d'Anton Wilkowski. Alors, c'est un type qui est né à Londres, qui a fait du théâtre, qui a plutôt un physique méditerranéen, qui est étonnant. On a l'impression qu'il a plein de culture. Et là, je pense que dans vos films, c'est une révélation, parce qu'il a. J'ai vu qu'il n'avait pas fait énormément de films pour le moment, Anton Wilkowski.
Non, il n'a pas fait énormément de films, il a surtout une carrière au théâtre.
Au théâtre, oui.
Donc, c'est un acteur britannique qui a une carrière au théâtre. Il a fait des tournées mondiales avec une pièce qui s'appelle Pygmalion notamment.
Ouais.
Et il a une triple culture en fait, qui est donc anglo-saxonne, qui est espagnole aussi parce qu'il a vécu en Espagne, et française parce qu'il a fait le conservatoire de Bordeaux. Donc il a vraiment trois cultures, il se sent pas d'un pays. Donc, ce qui fait qu'il a un peu une sorte d'accent étrange, un physique différent, sans être british, il est un peu aussi. Enfin voilà, il y a quelque chose qui m'a séduit.
Oui, qui vous a séduit. Et je pense que moi, quand je le vois à l'écran, c'est le fait que ce soit aussi un très bon acteur de théâtre, j'imagine. Je l'ai jamais vu au théâtre, qui fait qu'il a cette présence-là et cette justesse-là dans le jeu, parce qu'il est incroyable.
Il y a vraiment une grande tension. J'ai fait 7 courts-métrages avec lui avant de faire ce long, donc c'est un long travail ensemble.
Ouais.
Et c'est vrai que je le fais jouer finalement des rôles d'hommes, d'hommes en marge. Mmh. En tout cas, c'était une figure masculine qui me permettait, moi, d'exprimer des choses que je pouvais peut-être pas forcément exprimer.
C'est drôle parce que Truffaut, plutôt adulte, faisait jouer Jean-Pierre Léo jeune, et notre ami Morgane Simon jeune fait jouer son Jean-Pierre Léo à lui, c'est Nathan Lucas. Et puis il y a Kevin Azaïs. Alors, lui, il n'était pas dans vos courts-métrages.
Kevin, il a joué dans un court-métrage juste avant de tourner le long-métrage qui s'appelle Réveille les morts, et qui était fait vraiment pour travailler avec lui, pour travailler aussi avec Julien Krug, qui est un des acteurs du film, qui était dans mes courts-métrages. Et en fait, j'avais rencontré Kevin à un atelier qui s'appelle Émergence, qui permet de réaliser deux scènes de son film. Et c'est là que je l'ai confronté avec Nathan.
Avec Nathan, et vous avez vu que ça fonctionnait.
Ouais, j'ai vu surtout que je pouvais inventer des choses, que des scènes allaient jaillir vraiment sentiment en fait, d'un moment en fait.
Ouais.
Et mon travail, j'ai l'impression surtout, il est basé sur ce sentiment de moment en fait. On est dans des moments en fait entre les personnages. Ce qui fait que les scènes rentrent assez profondément dans les scènes en fait.
Votre scénario est écrit. Très écrit, mais au moment de tourner, je dirais pas qu'il y a une part d'improvisation, mais c'est quand même, il y a du champ, on peut bouger dedans.
Oui, il faut absolument bouger, même.
C'est votre façon de faire.
C'est impossible que je tourne ce qui est écrit exactement. Enfin, ce qui est écrit, c'est très bien. Ça nous amène à l'endroit où on veut aller, mais où on veut aller, c'est plus loin encore. Il faut aller plus loin que le scénario.
C'est un côté un peu piala, ça, quand même.
Je sais pas forcément.
Non, enfin, c'était un peu sa méthode.
C'est forcément une influence.
Pousser un peu, ouais.
L'idée, voilà, c'est exactement ça. C'est de pousser pour aller à la vérité, en fait.
Ouais.
Et la vérité, moi, je la détiens pas forcément quand j'écris le scénario. Je peux pas la sortir autant.
Ouais.
Tout seul en fait.
Mais du coup moi j'ai une question parce que je suis assez fasciné par ce parcours en disant effectivement il y a beaucoup de scénaristes et de réalisateurs qui disent oui moi je suis passionné par tel ou tel cinéaste et j'ai envie de m'inspirer de ce qu'ils font. Vous nous dites qu'au début vous n'aviez aucune culture cinématographique et que c'est très tard que vous êtes venu au cinéma. Du coup qu'est-ce qui provoque en vous l'envie d'écrire et l'envie de raconter quelque chose?
C'est difficile à expliquer, il y a une sorte de feu intérieur qui m'oblige à perpétuellement...
Sortir les choses,
oui, c'est forcément ça fait du bien. Et en même temps, c'est une façon d'exister finalement aussi. C'est sans sentir exister aussi.
Parce que vous mettez de vous dans votre scénario.
Il y a forcément toujours de soi. Après, les choses sont exacerbées pour que ça soit plus intéressant que la vie de quelqu'un.
Alors justement, à propos d'exacerber, comment vous avez découvert le post-hardcore?
Le post-hardcore, c'est une musique que j'écoute... J'écoute du rock alternatif depuis une dizaine d'années. Donc c'est vraiment une musique que j'écoute au quotidien.
C'est spécial.
Ça vient...
C'est quoi exactement pour ceux qui nous écoutent, définissez-le.
C'est une musique rock alternative où en gros ça crie et ça chante.
Ouais.
Post-hardcore signifie qu'il y a eu du hardcore avant. Le hardcore est une musique qui donc rock plus énervé, sans doute plus engagé aussi, qui vient des années 80. Et le post-hardcore, on va dire que c'est une version un peu plus moderne, qui va ajouter justement du chant, peut-être plus de mélodie, et qui reste une musique alternative vraiment, qui n'est pas forcément la plus connue en France, qui a peut-être plus d'écho aux États-Unis. Mais il y a une scène qui existe, et ça fait vraiment une dizaine d'années que je m'y intéresse.
Et comment, alors, vous, Kevin Azaïs, s'est plongé dans le rôle de ce chanteur de post-hardcore?
Et bah Kevin, il connaissait pas du tout ce milieu.
Ah oui.
Il vient vraiment du milieu hip-hop. Oui. Même il pose des morceaux en hip-hop. Donc ça a été un choc la première fois qu'on l'a emmené à voir un concert de hardcore. On a emmené voir Converge, qui est un grand groupe américain. Et je crois que à partir de là, il s'est dit bon, soit j'y vais, soit je vais pas. Il y est vraiment allé. On l'a coaché vocalement. Julien Krug, donc avec qui on avait fait Réveiller les morts, l'a coaché pour être capable vocalement de tout chanter en fait, et du coup on a créé des morceaux pour le film, deux morceaux pour le film, Kevin les a enregistrés, donc c'est sa voix dans le film, tout est en live, on a créé un groupe, je suis toujours dans cette démarche jusque boutiste,
ouais.
D'aller vraiment au maximum de ce qui est possible, et le maximum c'était que tout soit vrai en fait.
Ouais. On va en écouter un morceau dans un instant. Dernière question, mais vous restez avec nous dans l'émission, vous aurez l'occasion d'intervenir. Évidemment, c'est votre premier film. Évidemment, il sort donc le 25 janvier. Il y a une tension, vous avez le trac. Pour continuer dans ce métier, il faut que le film fasse un minimum, évidemment, d'entrée. C'est ça, hein, l'histoire.
Un minimum ou un maximum, je sais pas exactement. Ça, c'est, je vais y être confronté. Après, advienne que pourra.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.